France Inter.
C'est une histoire hors norme que nous allons vous raconter aujourd'hui. L'histoire d'un homme qui, depuis une vingtaine d'années, arnaque des femmes seules à travers la France en changeant à chaque fois d'identité.
C'est une sorte de caméléon. Il s'adapte complètement aux personnes qu'il a en face. Et donc, il sait exactement comment il doit être pour charmer la personne, en fait.
Parmi ses victimes, il y a beaucoup d'agricultrices dont il gagne la confiance ou qu'il séduit avant de s'envoler avec toutes leurs économies.
C'est glaçant de se dire, ok, je viens de vivre 5 mois avec un gars qui n'a aucune identité, qui n'a aucune existence, comme un fantôme qui a traversé ma vie, c'est très étrange à expliquer en fait.
Un escroc caméléon qu'on retrouve également là où on ne l'attend pas forcément, au milieu des pèlerins.
Vous faites le chemin de Compostelle, donc vous êtes censé être le plus humainement possible dans la sincérité, le respect. On ne s'attend pas du tout à ce genre de personnage.
Tour à tour bricoleur, navigateur ou amoureux transi, il entraîne ses victimes dans un véritable tourbillon.
Si on doit lui proposer un rôle dans un film, c'est lui que je prendrais, parce que c'est un acteur formidable.
Sa tactique est toujours la même, savoir se rendre indispensable avant de s'enfuir avec de l'argent, plusieurs milliers d'euros et parfois beaucoup moins.
Quand je m'aperçois qu'il n'y a plus de ronde dans la tirelire, là, ça bascule dans un autre registre. C'était la tirelire de mon enfant.
De nombreuses femmes ont été victimes de cet homme et pour la plupart d'entre elles, la blessure est toujours là.
Il m'a foutu comme une merde. Ce gars, il m'a laissé comme une serpillière. Et je me dis qu'il y a des gens qui sont un peu moins forts que d'autres, ils y laissent leur peau en fait.
Cet homme reste aujourd'hui encore insaisissable, alors plusieurs de ses victimes s'organisent pour aider la gendarmerie et tenter de le retrouver par tous les moyens.
Moi ça me rend dingue, toute cette énergie que je déploie pour leur donner toutes les informations sur un plateau. Et que derrière, l'autre, il court toujours et il continue. Il y a des plaintes à chaque fois, quoi.
Alors, qui est vraiment cet escroc aux multiples identités? Comment expliquer qu'il court toujours? Que disent ces victimes qui sortent pour la première fois du silence? Pour Révélation, Laetitia Chérel et Léa Bouquet ont mené l'enquête.
Révélation, le magazine de la cellule Investigation de Radio France, Benoît Colombat.
Et pour bien comprendre toute cette histoire assez incroyable, Léa Bouquet, vous vous êtes d'abord rendue dans une exploitation agricole dans le Gard.
Oui, je suis partie à la rencontre de Caroline, une agricultrice de 40 ans, installée près du ZES. Ça fait 5 ans que cette ancienne salariée dans l'industrie agroalimentaire est installée là. Elle est toute seule dans cette ferme, avec beaucoup de projets à mener. Elle voudrait par exemple créer une fromagerie, et puis il y a aussi tous les animaux de la ferme dont il faut s'occuper au quotidien. Toute la paperasse à remplir. Bref, c'est pour ça qu'en juillet dernier, Caroline poste une annonce sur Le Bon Coin. Elle cherche quelqu'un pour lui donner un coup de main. Un certain Paul va lui répondre, et il s'installe dans sa ferme pendant plusieurs semaines.
Donc ça, c'était son espace à lui. Voilà.
En fait, ici, c'est assez rustique parce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas d'accès à l'électricité. Le terrain, il est en plein milieu de la garrigue pour qu'il soit bien. J'y ai mis une petite cabane, on va dire, avec une douche solaire. Les toilettes, ben, ça se passait quand même dehors. Et puis sur la caravane, j'ai mis un petit panneau solaire pour qu'il ait l'électricité, qu'il puisse charger son téléphone et tout ça. Donc il avait quelques privilèges que même moi, je ne m'accorde pas.
C'est resté tel quel parce que du coup, quand j'ai porté plainte, tout ça, je voulais pas trop toucher.
Ah oui, donc là, il y a encore son linge sale.
Oui, c'est ça, il a laissé ses affaires, il a laissé ses poubelles, mais par contre, il a pris tous ses effets personnels.
Et ce fameux Paul, il est resté 3 semaines chez elle avant de disparaître. Alors, on va rembobiner maintenant le film de cette histoire. Léa, comment ça se passe quand il arrive?
Il fait très bonne impression. C'est un bel homme, taille moyenne, cheveux poivre et sel, les yeux verts, sportif et décontracté aussi. Il arrive en moto avec juste un sac à dos. Et pendant 3 semaines, il est exemplaire.
Il disait qu'il avait vraiment besoin d'aider, qu'il ne voulait pas rester sans rien faire. Donc, il était toute la journée à vouloir faire des petits travaux. Il avait des grandes connaissances en mécanique, du coup il m'a réparé ma voiture, ce qui m'a quand même bien aidé. Puis après il m'a dit, je vais te réparer ton toit parce que ici ça fuit. Et comme il était très efficace et puis très motivé, il a demandé très vite à avoir de l'autonomie parce qu'il voulait être tout seul tout le temps.
Et rapidement, il est très à l'aise.
Petit à petit, je me disais, pendant que tu fais les chèvres, moi je vais faire ça. Pendant que tu vas au marché, je peux rester là. Pas besoin de venir avec toi au marché, je vais te gêner. Parce que moi, j'aime pas voir les gens. Il était censé arriver de la ville. Et il voulait un retour aux sources, déconnecté, du silence, du calme, de la nature, des animaux, enfin, tout ce qu'il y avait ici, quoi.
Et puis, un beau jour, il lui dit qu'il doit louer un camion pour transporter une voiture d'occasion et la réparer à la ferme.
Du coup, il part un matin et puis il me dit « je rentre ce soir avec la voiture ». Toute la journée, il m'envoie des textos pour me dire « ça se passe bien ». Au bout d'un moment, je me suis super inquiétée, j'ai cru qu'il avait eu un accident. J'ai commencé à le chercher, je suis allée voir le loueur. Le loueur, il n'a jamais loué le camion et puis en fait, il n'est jamais revenu. Et après, du coup, je regarde, effectivement, il m'a piqué mon cash que j'avais, l'argent du marché, ce que j'avais mis un peu de côté pour la pérennité de mon exploitation. Et puis, en cas de coup dur, toutes mes économies, il a tout pris.
Toutes ces économies, ça représente combien ?
15 000 euros quand même. Et tout ça en espèces. Et ce qui est en plus incroyable, c'est que l'argent, il fallait vraiment le trouver.
L'argent, je l'ai caché pendant que j'ai fait des travaux. Donc, c'était pas visible de l'extérieur parce que j'ai monté un mur, en fait. Et dans le creux du parpaing, j'ai mis un bocal avec de l'argent et j'ai remis une rangée de parpaings par-dessus, puis une deuxième, puis une troisième, et j'ai fini mon mur. Moi, je sais dans quel parpaing c'était, mais de l'extérieur, on peut pas savoir. Et là, il y a un seul trou au bon endroit. En fait, je pense qu'il avait un détecteur de métaux, mais ça, je sais pas. Mais enfin, fallait avoir l'idée quand même de chercher dans les murs.
On dirait vraiment une scène de film. Visiblement, cet homme est très organisé. Et cette histoire, Léa, ce n'est pas un cas isolé.
Exactement. En 2023, cet homme a arnaqué une autre agricultrice. Elle s'appelle Stéphanie, elle a 51 ans et elle vit dans un village des Hautes-Pyrénées. Et elle, il la contacte par l'intermédiaire d'une plateforme de woofing.
Alors le woofing, il faut expliquer.
C'est le fait de proposer ses services sur une ferme en échange du gîte et du couvert. À l'époque, Stéphanie vit seule avec ses 3 enfants et elle a besoin d'aide sur sa ferme. D'autant plus qu'elle sort d'une période difficile.
J'ai subi en fait une opération du sein, on m'a enlevé une tumeur au sein en janvier. En septembre, on m'a enlevé l'utérus, pareil, j'avais un problème à l'utérus. Et l'année suivante, on m'a opéré de la colonne vertébrale en fait parce que je n'avais plus d'os. Et donc 2023, moi je sortais de mes opérations, j'étais toute seule sur la ferme.
Et là encore, au début, lorsque cet homme débarque pour donner un coup de main, tout se passe bien.
Oui, et ça va durer 1 mois et demi. L'homme qui dit cette fois s'appeler Maël est attentionné, à l'écoute, serviable. Il va construire par exemple une mare au canard et il effectue des travaux de soudure. Et pour faire tous ces travaux justement, il lui demande 1 200 euros. 1 200 euros qu'elle lui donne en cash et là encore, il disparaît. Pendant 2 jours, Stéphanie n'a aucune nouvelle jusqu'à ce qu'une inconnue la contacte.
« Bonjour, c'est Julie, on ne s'est jamais rencontrés, je suis l'amie de Maël. Il devait passer à la maison ce matin pour attaquer les travaux de la maison. Je n'ai pas de nouvelles, est-ce qu'il y a un souci ? Son téléphone est éteint. » Je dis « Écoute, je ne sais pas qui tu es. Moi, Maël, il s'est barré de la maison, je n'ai plus aucune nouvelle. J'ai appelé les hôpitaux, j'ai appelé partout, personne ne sait où il est. » J'ai dit, est-ce que tu lui as prêté de l'argent pour faire des travaux chez toi ? Elle me répond, elle me dit, oui, en fait, je lui ai donné pas mal d'argent. Il devait aller chercher une commande de matériel aujourd'hui. J'ai dit, tu le reverras pas.
Donc là, en fait, elle comprend qu'elle a affaire à un escroc en série. Et ce qu'il faut dire aussi, et là, je me tourne vers vous, Laetitia Chérel, c'est que cet homme aux multiples identités, il ne s'en prend pas qu'à des agricultrices isolées dans leur ferme.
Oui, il y a également une ancienne infirmière psychiatrique, Mathilde, 43 ans, divorcée avec un enfant. Elle travaille alors dans un EHPAD en Nouvelle-Aquitaine où elle ne se sent pas très bien. Et lorsqu'elle le rencontre, cet homme, c'est le coup de foudre.
Tout a commencé un vendredi soir, en avril 2022, quelques jours après mon anniversaire de mes 40 ans. J'ai cru à un cadeau du destin. Je me suis dit, ça y est. J'ai cru que j'avais rencontré l'homme de ma vie ce soir-là.
Et comment elle le rencontre ?
Sur l'application Tinder. Ils échangent par message pendant 2 ou 3 semaines et puis, très rapidement, il lui parle de ses projets.
Comme par hasard, il avait une proposition de travail pas très loin de chez moi, dans un village à côté. Il m'a dit qu'il aidait les gens en autoconstruction de maisons écologiques, qu'il avait eu une boîte de construction de maisons en Bretagne et qu'il avait vendu sa boîte pour se mettre à son compte et qui cherchait un endroit où s'installer. Et du coup, ben, je lui ai dit, t'as qu'à rester là, c'est idiot que t'ailles à l'hôtel. Du coup, oui, je lui ai ouvert les portes de ma maison.
Alors au début, tout se passe bien, c'est l'idylle. Hein. Ils font beaucoup de sport ensemble, ils partagent les mêmes valeurs. Et puis, l'argent n'est pas un problème.
Il faisait des courses, il préparait à manger, il payait beaucoup de choses, ouais, il me faisait des cadeaux. Donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas vu quelqu'un qui venait profiter de moi quelque part.
Et puis, ils ont un grand projet.
Oui, ils déménagent dans une vaste maison, dans un paysage magnifique, au milieu d'un parc de 80 hectares. Mais là, c'est elle qui paye le loyer. Alors, il lui explique qu'il attend de l'argent de l'entreprise qu'il a soi-disant vendue. Mais en fait, cet argent, elle n'en voit pas la couleur. Et quand elle y repense aujourd'hui, elle se dit qu'il y avait quand même des signaux qui auraient dû l'alerter.
Il passait des appels tout le temps, des faux appels en fait, où il parlait devant moi, soi-disant, à des gens. Il faisait sonner son téléphone, il répondait à son téléphone. Donc je pense qu'il programmait des alarmes en fait, qui faisaient semblant de passer des fois des discussions d'un quart d'heure qui en fait étaient toutes fake.
Et c'est une histoire de bateau qui finalement va servir de déclic pour Mathilde.
C'est ça, parce que son compagnon lui a aussi expliqué qu'il a mis en vente dans une agence spécialisée un somptueux voilier qu'il possède. Et que, grâce à cet argent, ils vont monter ensemble une entreprise dont Mathilde sera salariée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle quitte son travail en EHPAD.
Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche.
Oui, et pour en avoir le cœur net, elle contacte la personne qui est censée vendre ce voilier.
J'ai envoyé un mail à ce monsieur en demandant si c'était bien lui qui était en train de vendre le bateau. Et il m'a répondu assez rapidement d'ailleurs qu'il ne vendait plus de bateau depuis 10 ans. Et donc là, j'avais ma preuve concrète que tout était faux, même si c'est quelque chose que je sentais depuis un petit moment déjà. Et donc là, je percute qu'il y a énormément de choses qui sont complètement fake et qu'il n'y aura jamais d'entreprise, il n'y aura jamais de projet et que je suis en face d'un mythomane.
Bon, et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Bah alors là, Mathilde se plonge dans la lecture d'ouvrages sur les mythomanes et elle comprend qu'une fois démasqués, ils peuvent parfois devenir violents. Alors elle décide de lui parler, mais elle y va doucement.
Je ne lui ai même pas parlé du bateau en fait direct. Je ne voulais pas y aller frontal. Et, mais ça a suffi. Dans le peu que j'en ai dit, il a compris que je ne le croyais plus. Et en fait, il ne peut pas vivre sans son délire. Donc s'il a en face de lui quelqu'un qui ne croit plus à son délire et qui quitte le film, en fait, quelque part, ça le met dans la peur, dans l'inquiétude, il est devenu agressif. Et il m'a fait une espèce de scène de couple.
Et c'est là qu'il claque la porte et qu'il s'en va. Mathilde est complètement effondrée, elle se sent trahie, elle a quitté son appartement et son travail pour cet homme, et puis elle y a laissé toutes ses économies, 15 000 euros quand même. Et puis, elle lui en veut aussi d'avoir donné de faux espoirs à son fils.
Mon fils a entendu plein de fois « je t'abandonnerai jamais, je t'aime beaucoup ». Il manipule avec son émotionnel, avec son amour. C'est quelque chose d'extrêmement troublant, glaçant de se dire « ok, je viens de vivre 5 mois avec un gars qui n'a aucune identité, qui n'a aucune existence. » Enfin, comme un fantôme qui a traversé ma vie, c'est très étrange à expliquer en fait.
Et ce fantôme, Laetitia, il a aussi gâché la vie d'une autre femme, là encore seule, avec un enfant.
Oui, cette femme ne souhaite pas donner son nom. Elle vit du côté de Narbonne et elle a croisé la route de cet homme en mai dernier. Alors, à l'époque, ça fait des mois qu'elle économise pour offrir à sa fille le concert de ses rêves. Vous savez, un concert de pop coréenne. L'argent était dans une tirelire au milieu du salon et il y en avait pour 800 euros.
C'est un gros voyage, Paris, donc on met beaucoup d'argent de côté. Donc, on se serre la ceinture depuis 6 mois. Et c'est là qu'à un moment donné, quand je m'aperçois qu'il n'y a plus de ronde dans la tirelire, là, ça bascule dans un autre registre. Je croyais que je m'étais fait avoir, moi, mes sentiments, mon histoire, etc. Là, le fait d'avoir été volée, je tombe dans autre chose, parce qu'elle était clairement dans l'affect, cette tirelire. C'est pas juste de l'argent qu'on met de côté pour se faire plaisir, j'en sais rien. Là, c'était la tirelire de mon enfant, surtout, quoi.
Et ce qu'il y a d'incroyable, Benoît, c'est que la veille du vol, l'arnaqueur lui laisse ce message. Écoutez bien.
Coucou ma puce. Encore mille merci de cet élan d'amour. Comme je te disais hier, je me rends vraiment compte hein, des barrières que tu as défoncées pour pouvoir m'accueillir dans ta bulle, dans votre bulle. Je suis touché, vraiment. Je suis d'autant plus touché que... Vous êtes magnifique. rien que de vous regarder toutes les deux hier dans le canapé, de la voir faire la tortue, je sais pas comment. Merci de ces moments. Voilà. Plein de bisous. Plein de bisous.
Ouais, c'est assez effarant. Ce qu'on comprend, et là je me tourne à nouveau vers vous, Léa Bouquet, c'est que cet escroc sait parfaitement détecter les failles de ses victimes qui pourtant ont des personnalités assez fortes.
Oui, c'est le cas de cette femme qu'on appellera Annabelle, une enseignante divorcée qui élève seule ses deux enfants dans l'ouest de la France. Et quand elle le rencontre sur Tinder, elle sort de plusieurs déceptions amoureuses, avec en plus un deuil dans sa famille qui l'a particulièrement marqué.
Et quelle identité il prend cette fois ?
Jules Parot, né à Dublin, il se présente comme un ingénieur, célibataire, sans enfant, avec des parents soi-disant médecins qui sont devenus éleveurs de chèvres. Et il joue parfaitement à l'amoureux dans les textos qu'il lui envoie. Annabelle a accepté de nous les lire, je précise que nous avons modifié sa voix.
Je crois que je serais heureux d'avoir un enfant avec toi. J'espère que je te rends heureuse, ma chérie. Je t'aime comme un fou. Tu n'imagines pas à quel point tu me fais évoluer. Merci d'être là, je t'aime. C'est incroyable comme je tiens à toi. En fait, toute la journée, il m'envoyait des messages.
Et il lui fait également miroiter la maison de ses rêves, pour laquelle il va même jusqu'à organiser la visite.
Une maison splendide, exactement dans la ville où je voulais habiter. 3 salles de bain, avec un super beau jardin, une piscine à partager avec les voisins d'en face, dans le Neuilly de la petite ville où j'habitais en fait.
Et comme avec l'une de ses précédentes victimes, Mathilde, qu'on a entendue juste avant, il essaye d'établir un lien très fort avec les enfants d'Annabelle.
Effectivement, il va leur expliquer par exemple que cette maison, elle sera aussi à eux et que ça n'aura rien à voir avec l'appartement insalubre dans lequel ils vivent jusque-là.
Dans la chambre de mes enfants, j'arrivais pas à avoir plus de 13 degrés. Donc mes enfants souffraient du froid. J'avais un petit poêle à gaz que j'alimentais constamment. Je me levais en fait une heure plus tôt pour allumer le poêle pour pas que mes enfants aient froid. Et du coup, il disait à mes enfants « Ne t'inquiète pas, tu vas plus avoir froid la nuit. Vous allez avoir chacun votre salle de bain. Vous allez être trop bien. »
Voilà donc pour les promesses. Et finalement, qu'est-ce qui se passe alors ?
L'homme fait croire à Annabelle que l'achat de leur future maison est sur le point d'être conclu et qu'il manque 7000 euros en liquide pour les frais de notaire. Elle se laisse convaincre en se disant que c'est quand même la moindre des choses de participer puisqu'il est censé lui-même acheter la maison. Elle retire donc l'argent en liquide à la banque et elle lui donne. Sauf que le lendemain, l'homme disparaît. Sur le coup, elle a du mal à réaliser ce qui se passe et elle lui laisse plusieurs messages vocaux sans réponse, complètement désemparée.
Oui, c'est encore moi. Je pense comprendre, en fait, mais j'arrive pas à croire, en fait, que tu peux me faire ça, en fait. Je pensais que t'étais une belle personne. Enfin, avec tout ce que je t'ai dit, Jules, avec tout, les enfants, enfin, et la décence de lire mes messages et de te rendre compte, en fait, du mal que tu me fais, en fait. Je m'en fous, je te parle pas d'argent, je t'aime, en fait. Mais bon, je vois que c'était pas réciproque et que... Tu t'es un peu foutu de moi, quoi, en fait, quoi. Je pensais que t'étais vraiment une chance pour moi dans ma vie, en fait, et j'espère ne pas me tromper. J'aimerais bien que tu me répondes, s'il te plaît. Tu me dois au moins ça. Je t'embrasse. Fort.
Bah, on l'entend, et c'est assez bouleversant, d'ailleurs. Elle a du mal à réaliser ce qui lui arrive.
Oui, et surtout, elle pense encore qu'il peut revenir. Et au-delà de la déception amoureuse, cette histoire lui a coûté 15 000 euros quand même. Entre l'argent pour le notaire, la grosse moto qu'elle lui a payée, il est même parti avec sa crème pour le visage.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Laetitia Cherel, je me tourne vers vous à nouveau. Cet escroc multiple visage, vous avez également retrouvé sa trace sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, nous avons découvert que l'an dernier, il s'est fait passer pour un pèlerin avec, vous savez, la petite coquille Saint-Jacques accrochée à son sac à dos. C'est là qu'il a séduit une jeune femme qui faisait le chemin seule. Elle sortait d'une histoire d'amour difficile. Alors ils ont marché 2 semaines ensemble et puis ils se sont arrêtés dans une auberge dans les Pyrénées. Et c'est là que nous sommes allés pour rencontrer la patronne de l'établissement et sa belle-fille. Je me trouve à Saint-Jean-Pied-de-Port, un village haut perché dans les montagnes sur le chemin de Compostelle. C'est une des principales entrées du chemin de Compostelle. Et je me trouve là, devant une auberge, l'auberge du Pèlerin. Bonjour.
Bonjour.
Enchantée, Laetitia Cherel.
Janice Bourdeau.
Racontez-moi un peu, donc en 2024,
oui,
vous avez vu ce couple arriver. Qui était ce couple ?
Alors, un joli couple, ma foi, très sympathique. Ils se tenaient la main, ils avaient de la lumière dans les yeux, enfin franchement.
Ouais. Un couple qui vient de naître, quoi. Enfin, ouais, c'est vrai. Vraiment les joies du premier jour, quoi. C'est vraiment ça. Et puis même, je me souviens, quand ils sont arrivés dans la chambre, ils parlaient déjà d'enfants, quoi.
Et il fait parfaitement illusion.
C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une bonne tête. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Non, mais clairement. Hein. Et qui parle très bien, qui est très théâtral, parce qu'il parlait beaucoup. Il mettait beaucoup de présence. Il a un jeu de rôle, il est dedans, le gars. Si on doit lui proposer un rôle dans un film, c'est lui que je prendrais, parce que c'est un acteur formidable.
Et comme à son habitude, il joue à l'amoureux transi avec la jeune femme qui l'accompagne, qui s'appelle Marie. Il lui emprunte de l'argent, cette fois c'est 600 euros, et une fois de plus, il disparaît brusquement. Une femme qui a fait le chemin avec eux a été témoin de la scène et elle nous raconte.
Il a dit à Marie, il faut que je prenne un truc dans mon sac, j'arrive. Et donc Marie l'a attendu dans la chambre, il a pris son sac et puis il est parti en fait. Elle a commencé à faire le tour comme ça dans Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc moi, elle m'a appelée complètement paniquée en fait. Ben, elle a compris qu'elle s'était fait arnaquer financièrement et moralement.
Révélation. Benoît Colomba sur France Inter.
Alors essayons à présent, Laetitia Chérel, de comprendre qui est cet homme, qu'est-ce qu'on sait finalement de lui ?
Bah pas grand-chose en fait. On sait qu'il s'appelle Frédéric, qu'il a 46 ans, qu'il est né dans les Pays de la Loire, où vivent encore ses parents. Alors nous les avons contactés pour en savoir plus sur lui, mais ils n'ont pas voulu nous répondre. Ils nous ont juste fait savoir qu'ils ont coupé les liens avec lui depuis 20 ans.
Mais ce que vous avez découvert, c'est que cet homme a vécu pendant plusieurs années avec une femme avec qui il a eu un enfant. Et pour bien comprendre, Laetitia, vous nous emmenez dans la région du Grand Ouest.
Oui, dans un port dont on ne va pas donner le nom à la demande de son ex-compagne. Un port où il a vécu 11 ans avec elle et leur fille. Et puis, du jour au lendemain, il les abandonne et il leur laisse une dette de 17 000 euros.
Cette histoire, son ex-compagne n'a pas souhaité nous la raconter elle-même. C'est un ami du couple qui a accepté de le faire.
Oui, un capitaine breton qui vit sur son vieux gréement. Un bourlingueur qui nous a reçus à bord de son voilier avec sa casquette, ses yeux bleus et sa veste polaire.
Pour tout le monde ici dans le port, c'était Nico. Donc Nico, je l'ai connu en 2019. Donc en fait, il vivait depuis déjà un an ou deux dans le port à bord d'un voilier, donc avec sa petite famille, donc et puis deux enfants. Moi, je les voyais comme une jolie petite famille. Ils semblaient être vraiment un couple équilibré. Je les admirais.
Il les admirait, sauf que, on l'a bien compris, Nico, ce n'est pas son vrai prénom. Donc ça veut dire qu'il a vécu pendant 11 ans avec une femme sans lui donner sa véritable identité.
Oui, ça paraît incroyable, hein, mais c'est ce qu'on découvre dans un document judiciaire que nous avons fait lire.
Il lui a fait croire qu'il s'appelait Nicolas Chevaux. Ils ont eu un enfant qu'il a reconnu sous le nom de C***, expliquant à sa compagne que l'identité de C*** était celle d'un ami et qu'il l'avait utilisée car il n'avait pas de document d'identité.
Donc là, ce qu'il faut préciser, c'est que le nom de famille qu'on a bipé, c'est son véritable nom de famille qu'il utilisait en fait pour reconnaître son enfant, tout en disant à sa compagne que ce n'était pas son véritable nom.
Oui, et ça ne s'arrête pas là. Il lui ment aussi sur son activité. Il lui raconte qu'il répare des bateaux, sauf qu'un jour, il arnaque le propriétaire d'un voilier qui lui réclame alors 17 000 euros qu'il lui doit. Et c'est à ce moment-là que l'escroc prend la fuite.
Il est parti avec sa voiture. Donc en fait, il a vidé le bateau de tous les outils pendant qu'elle était au boulot et les enfants à l'école. Et donc le soir, bateau vide hein, et voiture disparue et terminée, plus de contact. Du jour au lendemain.
Et c'est sa compagne qui doit rembourser l'argent.
Eh bien oui, parce qu'en l'absence de son compagnon, elle est condamnée par la justice. Alors, elle va finir par porter plainte hein, contre l'arnaqueur. Nous l'avons contactée et voici sa réponse par texto.
Cet homme n'a plus sa place dans notre vie. Il a fait le choix de nous abandonner après nous avoir mis dans une situation difficile. J'ai dû me battre pour m'en sortir psychologiquement et financièrement. J'assume seule depuis bientôt 4 ans ma fille et c'est sûrement mieux ainsi. J'aimerais pouvoir tourner cette page et réussir à refaire confiance, ce qui m'est encore très difficile à ce jour.
Ouais, difficile à vivre tout ça, on l'imagine évidemment. Est-ce qu'on sait combien de femmes ont déposé plainte ?
Nous en avons recensé une dizaine juste sur les deux dernières années, mais on est sans doute très largement en dessous de la réalité.
Bien, alors on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on va voir comment plusieurs femmes s'organisent pour tenter de retrouver par tous les moyens l'homme qui a fait voler leur vie en éclats. Les épines du cœur, extrait du dernier album de Vanessa Paradis, Le retour des beaux jours.
Révélation sur France Inter.
Et retour à notre enquête sur cet escroc aux multiples visages de l'appli Tinder au chemin de Compostelle. Il a fait tourner la tête et escroqué des dizaines de femmes un peu partout en France, et ça depuis une vingtaine d'années. Léa Bouquet, vous avez enquêté avec Laetitia Chérel sur cette affaire hors norme. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que certaines de ces femmes ont décidé de retrouver par leurs propres moyens l'homme qui a bouleversé leur vie.
Oui, et la première d'entre elles, c'est Ève Champavier, une agricultrice de 43 ans qui vit dans les Hautes-Alpes et qui rencontre l'escroc en 2023 sur Tinder. Il dit à ce moment-là s'appeler Romain. Il reste un mois et demi chez elle pour l'aider à rénover sa maison. Et un beau jour, encore une fois, il se volatilise et il part avec sa moto, sa carte bancaire et des affaires de bivouac. Le préjudice est estimé à 8 000 euros et l'agricultrice va déposer plainte.
Et elle ne s'arrête pas là.
Oui, quand elle comprend qu'elle s'est fait arnaquer, cette ancienne juriste se lance sur sa trace. Elle épluche les moindres détails de sa vie. Comme il lui a dit qu'il était marin, elle appelle toutes les capitaineries de Bretagne, sans résultat. Et puis, comme il a volé sa moto, elle tente de remonter cette piste.
J'ai publié dans des dizaines et des dizaines de groupes de motards la photo de l'escroc et la photo de ma moto. Et en fait, j'ai reçu un accueil hyper chaleureux des motards qui me disaient « on se balade dans ce secteur parce qu'il a été vu dans ce coin pour vous aider avec les GoPros allumés et à revisionner tout le trajet pour être sûr de ne pas l'avoir loupé. » Et comme ça, il a été repéré. Il y a des motards qui m'ont dit On l'a croisé, tel rond-point, Perpignan. Il a bien le casque gris que vous nous avez donné. C'était bien cette moto, c'était fou.
Alors on précise que les GoPros, ce sont des caméras ultra légères. Et donc ça a marché alors ?
En tout cas, l'escroc a bien été repéré, oui, par un motard à la Bourboule, dans le Puy-de-Dôme. Mais le temps que la gendarmerie entre en action, c'est trop tard, il est déjà loin.
Mais cette femme ne baisse pas les bras. Hein.
Oui, et elle a un seul objectif en tête, éviter qu'il n'y ait d'autres victimes. Du coup, elle va raconter son histoire sur Facebook en diffusant sa photo partout. Résultat, de nombreuses personnes le reconnaissent et la contactent. Et pour s'y retrouver dans cette masse d'informations, un peu comme un détective privé, elle colle tout ça sur son mur.
Cette grande chronologie permettait de voir ses déplacements, de noter sur les 2 ans où j'avais des informations, les lieux où il avait été, comment il se faisait appeler, le nom des victimes, et puis de reporter ça sur une carte, tout ça affiché au mur pour essayer d'un peu comprendre où il allait, quelles étaient les régions où il revenait.
Et cette frise, ça pouvait faire combien de mètres de long ?
Ou ben ça faisait au moins 2 mètres.
Impressionnant. Et les gendarmes, est-ce qu'ils sont au courant de tout ça ?
Alors oui, Eve transmet toutes ces informations en temps réel à une gendarmerie du Grand Ouest. L'un de ces gendarmes a accepté d'ailleurs de nous parler, à la condition de faire lire ses propos. Il nous dit qu'il a rarement vu une telle affaire.
C'est assez inhabituel avec ce mode opératoire, parce qu'arriver à faire autant de victimes avec la même façon de faire, on est un peu surpris au début. Alors on se dit quand même... Comment peut-il arriver à berner autant de personnes avec une apparente facilité ? Certes, il changeait de téléphone, et à l'heure actuelle, tout le monde sait qu'on peut acheter des téléphones, ce qu'on appelle les prépayés, donc il achète un téléphone ou une carte SIM dans un bureau de tabac, en tout anonymat.
Et les gendarmes vont finir par faire le lien entre toutes ces victimes.
Exactement. Et l'arnaqueur est finalement localisé dans les Hautes-Pyrénées, comme nous le raconte Annabelle. Vous vous souvenez, c'est l'enseignante qui a laissé ce message déchirant après son départ.
Il a été arrêté à Tarbes, devant un réparateur de moto. Il faisait changer un pneu, certainement, de la moto que j'avais achetée, en fait. L'arrestation s'est passée sans encombre, il s'est laissé faire. Il a fait 24 ans de garde à vue, il a tout avoué. Toute mon histoire, il a dit que oui, c'était vrai, qu'il était parti avec 7000 euros, qu'il était parti avec la moto.
Il est arrêté, mais est-ce qu'il mesure vraiment l'ampleur des dégâts qu'il a provoqués ?
Eh bien, pas vraiment. Écoutez ce qu'il a dit aux gendarmes. Nous avons fait lire un extrait de ses propos.
Lors de ses auditions, monsieur reconnaît les faits qu'il explique par ses propres difficultés administratives, sans pour autant manifester une réelle prise de conscience du trouble causé, de sorte qu'il ne présente pas de garantie suffisante pour éviter la réitération de l'infraction.
Autrement dit, il y a clairement un risque de récidive, et même s'il n'y a pas eu de violence physique, les conséquences, elles sont énormes pour la plupart de ces victimes.
Oui, comme pour Stéphanie, cette agricultrice de 51 ans, qui a hébergé l'escroc pendant 1 mois et demi dans sa ferme.
On a tellement honte, mais tellement honte de rien avoir vu, de rien avoir... Calculer, les gens, après, ils viennent vous dire « Ah ben, tu t'en es pas rendu compte, mais tu l'as pas vu, de toute façon, tu fais confiance à tout le monde. » Et on se dit que c'est de notre faute. En général, j'ai quand même un mauvais caractère, on va dire. Il m'a foutu comme une merde. Ce gars, il m'a laissé comme une serpillère. Et je me dis qu'il y a des gens, s'ils sont un peu moins forts que d'autres, ils y laissent leur peau, en fait.
On comprend que c'est très violent.
Oui, et ça a été le cas aussi pour Annabelle, qui a mis du temps à se reconstruire et à réaliser ce qui lui était arrivé.
J'étais sous emprise, en fait, complète. Je ne jurais que par lui. Je pense que même si quelqu'un m'avait dit « cet homme, c'est un escroc », je pense que je ne l'aurais pas cru.
Et cette douleur qu'on entend, hein, elle est renforcée aujourd'hui, Laetitia Cherel, par le fait que cet homme, bah, il court toujours. Et là, il faut faire un léger retour en arrière pour comprendre.
Oui, parce que vous vous souvenez, Benoît, il est arrêté en 2023, placé en garde à vue, mais il est immédiatement relâché. Et quand il est convoqué 2 ans plus tard devant le tribunal pour être jugé, il ne se présente pas à l'audience.
Et qu'est-ce qui se passe alors ?
Il est condamné à 2 ans de prison ferme en son absence pour escroquerie suite à 2 plaintes. Et depuis, il est visé par un mandat d'arrêt. Mais je précise que le jour où il sera interpellé, il aura toujours la possibilité de faire appel.
Bon, mais est-ce qu'il est vraiment recherché ?
Alors en fait, c'est clairement pas un dossier prioritaire. C'est ce que nous explique un ancien gendarme qui ne souhaite pas qu'on donne son nom et dont nous avons fait lire les propos.
L'inscription en mandat d'arrêt, ça veut juste dire qu'on recherche le gars suite à une condamnation de tel tribunal pour tel fait. Mais ça, c'est au cas où il est contrôlé pour un excès de vitesse, par exemple, les gendarmes vont l'arrêter. Mais il n'y a personne qui va se lever le matin en disant « Tiens, je vais le chercher, lui ». Ça, c'est dans l'imaginaire collectif. En réalité, ça dépend du niveau de dangerosité des personnes. S'il y a un évadé dangereux, là, oui, il y a un groupe créé spécialement dédié à sa recherche.
Et ça, bien sûr, c'est difficilement entendable par les victimes.
Ah oui, elles sont très remontées, parce qu'il continue à faire d'autres victimes alors qu'il est recherché. Et c'est notamment le cas d'Ève.
Celle qui a tenté de retrouver l'escroc grâce à des motards.
C'est ça. Et au bout d'un moment, de rage, elle a brûlé tous les documents qu'elle avait rassemblés pour son enquête. Aujourd'hui encore, elle ne comprend pas qu'il soit toujours dans la nature.
C'est quand même un homme qui est spécialiste de l'usurpation d'identité, ou en tout cas de l'utilisation de fausse identité, qui n'a pas de domicile, qui voyage énormément. Le relâcher et le convoquer quelques mois après, ça n'a aucun sens.
Et sa colère, elle est partagée par une autre victime, et toutes les deux, c'est assez étonnant, elles vont se lancer à la recherche de l'homme qui les a arnaqués.
Oui, et cette autre victime, c'est Caroline. Vous vous souvenez peut-être, c'est l'agricultrice qu'on a entendue au début de l'émission et qui vit dans le Gard. Avec Ève, toutes les deux, elles ont passé des heures au téléphone et sur les réseaux sociaux. Elles ont posté des fausses annonces sur le Bon Coin pour le piéger. Et tout ça, elles nous l'ont fait partager en direct à ma collègue Léa et moi, avec des messages vocaux. Écoutez celui que Caroline nous a envoyé le 16 octobre dernier précisément.
Bon ben, depuis qu'il est parti, en fait, c'est un des premiers trucs que j'avais fait, c'est missionner toutes mes copines et tout le monde de mettre des fausses annonces. Et là, hier, ben voilà, ça y est, il a répondu. Donc hier soir, on a inventé un plan avec Ève. Donc elle l'a appelé, elle a identifié sa voix formellement, elle devait l'enregistrer pour me l'envoyer. Son enregistreur n'a pas fonctionné. Du coup, on le rappelle ce soir, pour être sûr, quoi.
Elle l'a eu au téléphone, mais est-ce que c'est vraiment lui ?
Alors ça, oui. Ève est formelle. Elle a quand même passé plus d'un mois à vivre avec lui. Elle a reconnu sa voix, ses intonations, son style. Écoutez l'échange téléphonique qu'elle a eu avec lui et qu'elle a enregistré. Elle se fait passer pour une femme qui a besoin de ses services.
Vous pouvez me dire un peu les chantiers que vous vous sentiez de faire et les autres non. Et comme ça, je prends déjà le matériel qu'il faut pour deux, trois premiers trucs.
Super. Oh, bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose que je ne pourrais pas faire normalement, mais ok. Ok, ok.
Ah ouais ?
Bah ouais, j'ai rénové plusieurs maisons, donc il y a un moment donné, soit il fallait être milliardaire ou soit il fallait être démerdard. Et du coup, j'étais démerdard.
Ah, trop bien.
Ouais, la ligne téléphonique n'est pas formidable, mais on comprend quand même ce qu'il dit. Dans la vie, il faut être soit milliardaire, soit démerdard. Sous-entendu, bah, le bricoleur tout-terrain, c'est moi. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Eh bien, à partir de ce moment-là, les deux femmes décident de lui tendre un piège, et voilà leur plan.
On lui donnera un rendez-vous dans un bar ou dans un resto, pour le maintenir assez longtemps dans un lieu public, et appeler la gendarmerie.
Mais c'est pas risqué de faire ça ?
Ben si, et ça, elles l'ont réalisé. Alors, elles demandent à plusieurs gendarmeries de prendre le relais, mais pour elles, l'attente est interminable.
Depuis, on est comme de cruches à attendre collées à nos téléphones. On essaye de se rassurer en se disant que les gendarmeries respectives ont pris les choses à la hauteur des choses et qu'il est en prison aujourd'hui, mais on n'y croit absolument pas. Et toujours pas de réponse.
Bon, et finalement alors ?
Eh bien, selon nos informations, une demande d'autorisation de le géolocaliser aurait été faite, mais elle n'aurait pas abouti. Et tout ça, Caroline a beaucoup de mal à l'accepter.
Moi, ça me rend dingue. Toute cette énergie que je déploie pour leur donner toutes les informations sur un plateau, et que derrière, l'autre, il court toujours et il continue. Il y a des plaintes à chaque fois, quoi. Bon, voilà, faut que je me calme, ça m'énerve.
Oui, on peut comprendre son agacement. Et que répond la gendarmerie ?
Eh bien d'abord que les procédures en la matière sont très strictes. Et puis ensuite, il y a une question de priorité. C'est ce qu'explique le général et chef de la gendarmerie du Gard, Emmanuel Cassot.
Évidemment, je comprends très bien le sentiment de délaissement d'une victime qui vit ces difficultés-là. Dans une brigade de gendarmerie aujourd'hui, si vous voulez, dans le Gard, moi j'ai une femme victime de violence toutes les 6 heures. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, quand on constate près de 27 000 crimes et délits par an, il faut prioriser évidemment les moyens qu'on est capable d'engager sur chacune des plaintes qu'on reçoit au quotidien dans nos brigades de gendarmerie. Et donc, évidemment, on traite en priorité les affaires d'atteinte aux personnes.
Mais on l'a dit, même s'il n'y a pas eu de violence physique dans cette affaire, l'impact psychologique, lui, est énorme.
Ah oui, et surtout à une telle échelle. Et ce qui est terrible aussi, c'est le sentiment de ne pas être prise au sérieux. Et ça, on le comprend bien en écoutant le témoignage de Stéphanie.
Il a tué personne, il a violé personne, il a battu personne, il n'a pas touché au gosse. Il a pris de l'argent, mais on lui a donné de notre plein gré l'argent. À part chez les gens chez qui il a volé. Et en fait, devant un juge, on va passer pour des imbéciles, pour des gens crédules, pour des pépinots. Et c'est ça le plus dur. L'impact qu'il fait au niveau des gens, ça n'a rien de physique, c'est tout dans la tête en fait.
Et dans cette affaire hors norme, ce qui pourrait peut-être faire bouger les choses, c'est une plainte collective. Certaines victimes y pensent sérieusement.
Merci Laetitia Chérel pour cette enquête réalisée avec Léa Bouquet que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France avec également une carte réalisée par Raphaël Canezan où vous allez visualiser toutes ces arnaques depuis 30 ans et une vidéo où on vous raconte tout ça, vidéo signée Nicolas De Witt de la cellule investigation de Radio France. Et si vous avez des informations à nous communiquer, n'oubliez pas, vous pouvez le faire à cette adresse sécurisée alerte.radiofrance.fr. Révélation, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Théo de Lobadère. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro de Révélation. Thank you.